Alors, on est rendu à ouvrir ensemble la parole de Dieu dans Luc, au chapitre 15. J'espère que vous êtes assez familiers. Peut-être que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit cette semaine, je relisais ce passage dans Luc 15. Je ne me rappelle plus c'est qui m'a dit ça, mais quelqu'un m'a dit ça, je pense que c'est ce matin. Je pense que je suis ici aussi ce matin-là, je suis plus sûr, là. L'air un peu perdu, là, mais quelqu'un m'a dit ça. C'est-tu toi? C'est Sébastien, ça se peut. Alors, on connaît bien le matériel. Je veux vraiment, aujourd'hui, me concentrer sur deux versets. Un message à deux versets, ça veut dire c'est du concentré. On va juste les lire, je prie, ensuite on plombe. Ça tourne encore un peu. OK, donc on lit ici dans Luc 15 et verset 23, le Père ici qui parle, et qui dit « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » On te remercie ce matin, Seigneur, de ce qu'on a un temps comme ça, désigné, pour s'arrêter ensemble pour être enseigné de toi. C'est toi le vrai enseignant, c'est toi qui ouvre les yeux, c'est toi qui convainc les cœurs. Tu fais le vrai travail qui compte. C'est pour ça qu'on vient à toi, Seigneur. On veut faire silence, on veut aussi, Seigneur, que tu disposes nos cœurs, que tu ouvres nos yeux, nos oreilles, pour te voir, entendre tout ce que tu as pour nous, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour ce temps. Sanctifie-le pour toi, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'expression « veau gras », ici au verset 23, est un type de Christ. Il y a tellement de types de Jésus dans la Bible, là. Mais le veau gras, d'abord, c'est pas, je savais, c'est un peu comme le compte d'épargne de la famille. Il était gardé pour les occasions spéciales, genre un mariage, un événement historique dans l'histoire de la famille. Puis, ici, dans le fond, c'est quoi que le père fait? Il fait la plus grosse dépense pour fêter le fait que son fils, qui était dans une faillite complète, est maintenant transformé, renouvelé. C'est pour fêter le miracle de la nouvelle naissance, on va dire de même, de la restauration. Et évidemment, je ne sais pas si vous faites le parallèle, mais Jésus qui est tué, hein, Jésus qui dans le fond, le Père le donne pour mourir pour nous. Et ce qui fait en sorte qu'on peut célébrer parce que maintenant on a part à l'héritage, on est co-héritier de Christ. Donc vous voyez le parallèle, là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour ça. Mais ça m'amène à simplement cette première question. Est-ce que nous sommes animés d'un esprit de gratitude, de célébration? Est-ce qu'on a tendance à prendre un peu pour acquis cette grâce merveilleuse en Jésus-Christ, ou est-ce que comme ici, on célèbre, on va à la fête de Dieu et on est convié par lui-même à se réjouir en lui pour toute sa bonté, qui est le thème du mois, d'ailleurs, de mai. On est rendu, je suis mêlé aujourd'hui, hein? Me trompe de moi, me trompe de ci, me trompe de ça. La bonté de Dieu remplace le manque, hein? Il y avait un manque qui était là, il y avait un besoin, il y avait un vide. On peut dire dans nos vies, hein, tant qu'on n'a pas Dieu, on a un manque, on a un vide. Il remplace ça, Dieu, par la plénitude de sa provision. Par l'abondance, par le banquet spirituel auquel il nous convie lorsqu'on est son enfant. Et bien plus que ça, cette surabondance de la grâce de Dieu, hein, lorsque le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, bien, va produire des résultats merveilleux dans la vie de ceux qui bénéficient de cette grâce. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la bonté de la provision parfaite. On va parler de la provision parfaite de Dieu. Évidemment, c'est Jésus, c'est la croix, c'est la résurrection. Mais on va voir trois résultats de ça dans notre texte de ce matin. Trois résultats de la provision parfaite de Dieu. D'abord, une transformation complète. Juste vous amener à considérer ici un contraste entre le verset 16 et le verset 24. Regardez le verset 16. Là, ici, c'est le fils avant là, qui retourne au père. Il aurait bien voulu se rassasier des carreaux. Ça, c'est les écorces. C'était même pas l'aliment en tant que tel, c'était ce qui l'enveloppait. des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. » Là, sa condition, ça va pas bien. Mais regardez au verset 24. « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » J'aimerais vous faire remarquer un peu ici, c'est quoi le contraste. D'abord, c'est un contraste entre le désespoir du verset 16 et l'espérance vivante du verset 24. Hein? Dans le verset 16, il est en manque, il n'y a pas de provision. Dans le verset 24, il y a l'abondance de la provision physique, le veau, OK? La provision relationnelle, il est inclus pour faire partie de la fête. Il n'est pas exclu. Puis, même spirituel, il se réjouit, puis aussi, il est passé de la mort à la vie. Donc, la provision, elle est là, complète. Puis, on voit un autre contraste entre les versets 16 et 24. Dans le verset 16, il est isolé. Il n'y a personne qui lui donne rien. Il est délaissé. Dans le verset 24, au contraire, il est inclus et accepté. Il est appelé à prendre pleinement part à la réjouissance, à la fête que son père a initiée. Et donc, j'aimerais, pour ce premier point, prendre chacun de ces éléments en particulier pour faire ressortir là, la beauté, la puissance des leçons qu'il y a là-dedans. D'abord, hein, il y a une différence entre le désespoir et l'espérance vivante. Dans le verset 16, il est tout désespéré, mais la Bible nous parle d'espérance vivante dans 1 Pierre. Au chapitre 1, il ouvre comme ça, Pierre, en disant « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage, voyez-vous, c'est un peu la même image ici qu'avec le Fils, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc ici, il y a une espérance. Et l'espérance, c'est la puissance spirituelle. En fait, c'est une puissance spirituelle exceptionnelle. Puis, je crois que ça fait une grande différence dans nos vies. Lorsqu'on se nourrit d'espérance, je vis d'espérance, comme le cantique, de savoir que Dieu n'a pas fini avec nous autres, puis il y a tout le temps quelque chose que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut voir avec nos yeux. C'est ça l'idée de l'espérance. Et je disais dernièrement que lorsque on a un leadership qu'on exerce, et on exerce tout d'une manière ou d'une autre du leadership spirituel, mais les leaders spirituels authentiques et christiques rejettent l'idée de la manipulation. Tu sais, les patterns de manipulation, c'est d'amener les gens à voir ce qu'on veut qu'ils fassent. Ça amène souvent beaucoup de désespoir. Parce que c'est de l'hommerie, puis OK. Mais les leaders spirituels christiques embrasse et communique l'espérance vivante qui est en Jésus-Christ en le mettant lui de l'avant, dire « Hey, ta situation là, regarde, il y a un Dieu qui est là, qui t'aime, qui est au contrôle. » Ça, c'est le leader qui amène l'espérance vivante qui est en Jésus-Christ. Et ça, ça nourrit la foi, ça nous amène à considérer qui est Jésus et son œuvre. Et littéralement, c'est le sens premier d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'ai partagé un message il y a 2-3 semaines, un mercredi soir, sur le fait que quand ça parle d'amener toute pensée à l'obéissance de Christ, l'obéissance, c'est l'obéissance de Jésus, l'obéissance de la croix. Donc, amener toute pensée à la lumière de l'œuvre accomplie, de la croix, de tout est accompli. OK? Et ça, ça donne de l'espérance. Quand on voit tout à la lumière du fait que Jésus a tout accompli. Et ça, c'est encourageant, c'est libérateur, c'est motivant. Ça enlève le fardeau de la performance, d'avoir à essayer d'être à la hauteur, et ça nourrit la foi. Et aussi l'amour de Christ qui nous presse à vivre et à embrasser tout ce que Dieu nous envoie. Parce que nous, on a nos plans, on a nos façons de faire, on a nos ambitions. Mais Dieu, lorsqu'il laisse ces choses mourir, c'est parce qu'on a l'espérance qu'il veut amener quelque chose de vivant et de tellement mieux, qu'il veut remplacer la mort par la vie. Donc ça, c'est l'idée de passer du désespoir à l'espérance vivante. Mais notre petit monsieur ici, le fils, était aussi dans le manque, dans la disette, au verset 16, et au verset 24, on le voit dans l'abondance. Il y a un contraste là-dedans, oui, entre disette et abondance, mais aussi entre mort et vie. Hein, il était dans la mort, il était séparé, il était loin, puis après ça, il est accepté, il est dans la communauté, dans la relation. Et c'est ça que la bonté de Dieu, de la bonté de sa transformation complète dans notre vie, ça se passe par la provision de sa vie. Là où il y a la mort, Dieu amène la vie. Une vie active, bienfaisante, dans tous les domaines. Parce qu'ici, on voit, il y a un veau. Dans le domaine physique, savez-vous que quand on marche avec Dieu, non seulement quand on rencontre Dieu, qu'on l'accepte comme notre sauveur, mais ensuite qu'on marche dans ses voies, ça a un effet bénéfique même sur notre corps. Puis là, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que vous êtes malade parce que Dieu ne vous aime pas, puis vous êtes... Mais, tu sais, mettons quelqu'un qui était tout stressé, qui avait peur de tout, là, puis qui apprend à se confier en Dieu, puis qui voit que Dieu s'occupe de lui, puis il l'aime, le corps bénéficie de ça. Même chose pour l'âme. L'âme, c'est notre personnalité, c'est avec ça qu'on est en relation avec les autres. Et ici, lui, il est inclus dans la communauté de foi, dans la communauté du Père, avec la fête et tout ça. Et notre âme aussi bénéficie du fait, lorsqu'on est un enfant de Dieu, il y a une bénédiction du fait que la façon qu'on a interagi avec les autres est beaucoup plus saine et bénéfique. Ça aussi, c'est transformé. Et évidemment aussi, spirituellement, la réjouissance, le fait d'être revenu à la vie, c'est le miracle de la vie en Jésus. Et lorsqu'on est avec le peuple de Dieu, on partage ça ensemble, on partage cette vie. Et ça, savez-vous quoi? Si, mettons, là, d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouviez à aller, mettons, vous avez un billet d'avion gratuit pour la Chine, puis vous allez en Chine, puis vous allez dans une communauté d'enfants de Dieu qui sont... des réels enfants de Dieu, vous allez avoir cette communauté de foi. Peut-être que vous n'allez pas communiquer très bien au niveau de la langue, mais voir ce lien béni, l'amour de Christ, le même esprit. C'est ça ici, le lien que Dieu rétablit, restaure par la transformation complète. Est-ce que tu as cette vie? Est-ce que tu es passé de la mort à la vie? Est-ce que tu jouis pleinement en tant qu'enfant de Dieu de l'abondance de cette vie? Il y a un autre élément que j'aimerais qu'on voit dans ce premier point, toujours, il est passé de isolé à accepté ou inclus. Parce que ça, c'est gros, là. On vit dans un monde, puis spécialement maintenant, il y a tellement d'isolement. Puis c'est un peu paradoxal ou ironique. Les gens, ils ont 250 amis sur les réseaux sociaux, mais ils se sentent plus seuls que jamais. Enfin, c'est beaucoup du fake. C'est du succès d'année. C'est virtuel. Mais même, allons, au niveau des enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu se sentent seuls et isolés, même de Dieu, parce qu'ils croient à une distorsion de l'ancienne alliance versus la nouvelle. Lisez les psaumes, puis ça, puis je veux en qualifier ce que je vais dire, là. Il y a tellement... Ce matin, je lisais dans les psaumes, psaume 63, le désir d'être proche de Dieu, puis tout, mais on a des fois l'idée que, comme dans l'Ancien Testament, Dieu est là-bas, puis je veux que tu viennes proche, Dieu, OK? Mais ça, c'est un concept de l'ancienne alliance. Parce que maintenant, si on a un enfant de Dieu, il est où, Dieu? Il est-tu loin, là-bas? Ah, il est en nous, OK? Puis aussi, comme dans le psaume 51... Lorsque c'est le psaume de repentance de David, et il dit « Ah, ne retire pas ton esprit de moi », puis c'est un beau psaume sur la repentance, mais encore là, on est scellé du Saint-Esprit. On ne peut pas perdre notre salut, on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Donc, il y a des choses comme ça qui ont changé. Ou est-ce que des enfants de Dieu, des fois, ont le sentiment qu'ils sont séparés de Dieu, mais ils ne le sont pas. Puis vient s'ajouter à ça, la pensée, on parle des sentiments, des fois on se sent loin de Dieu, OK, puis c'est vrai, puis des fois je veux dire, c'est des sentiments authentiques qui nous amènent à considérer nos voies, puis justement à se donner à Dieu là-dedans. Mais des fois on a la pensée où on s'imagine Dieu comme un peu s'il était comme ça. Là, j'ai une illustration avec mes mains. Vous voyez tout le monde mes mains, là? Voyez-vous, mais même, je ne suis pas un prestidigitateur, OK? Mais je vais vous montrer une illustration. Des fois, on voit comme Dieu comme ça, ou des fois qu'il les croise de même, OK? Alors que, non seulement avec la Bible, on pourrait dire que c'est des mains comme ça qui sont prêtes pour embrasser. Ça, c'est la Nouvelle Alliance. Moi-même, on peut dire, je le mets de main, entrelacer. On est proche de même de Dieu, là. Tu sais, c'est interlock. Entrelacer. Je pense que ce serait le bon mot, interlock. Tu sais, on ne peut pas être plus proche de Dieu. Donc, comment toi, tu vois ta relation avec Dieu? OK, tu es un enfant de Dieu, tu as accepté juste comme ton sauveur. Mais comment tu le vois? Comment vois-tu Dieu dans tes journées poches et que tu te sens pas très spirituel, pas très super? Comment tu le vois, Dieu? Ça veut quoi? Dieu met de l'importance sur comment qu'on le voit. Il révèle, la Bible, c'est la révélation de qui Dieu est. Puis la Nouvelle Alliance nous montre que tout ce que Dieu est, en Jésus, Jésus est venu révéler le Père. Ici, on a une révélation du Père. Dieu prend ça au sérieux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'arrête. OK, Dieu, montre-moi qui tu es réellement. Parce que j'ai tendance à imaginer des choses qui sont peut-être pas tout le temps pareilles ou qui sont biaisées par mes sentiments puis mes pensées. Et ça, je parle même pour un enfant de Dieu. Même si on a l'Esprit de Dieu, puis qu'on prend plaisir à Dieu, on peut quand même tomber dans ces pièges-là. C'est pour ça que la Bible nous parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et nous sommes unis à Christ, on est acceptés en lui. Si vous êtes plus trop sûr, lisez lisez Éphésiens 1. Tout ce que Dieu a fait de nous en Jésus. Et donc, tout ça... Puis si on est encore là, des fois, on se sent un peu de travers. Qu'on se rappelle que souvent, beaucoup des combats qu'on a, c'est parce qu'on est une nouvelle création en Jésus-Christ. Des fois, on se dit, ah, comment ça que je suis le même? Parce que tu es un enfant de Dieu. Les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, les autres, ils s'en fichent de ça. Ils pataugent dans le péché comme étant quelque chose de naturel. Mais pour nous, le péché, c'est « yak, on n'en veut plus. » Puis là, on se trouve dans mes poches. Mais c'est précisément parce qu'on a l'Esprit de Dieu et qu'on est un enfant de Dieu. Donc, tu sais... Il y a quelque chose là-dedans aussi qui est réconfortant. Et tout ça, mes amis, c'était long, le plus long point, là, c'est mon premier point, c'était le plus long. Tout ça, là, c'est par le moyen de la foi. Le miracle de la vie, la grâce de Dieu, la transformation complète, on y accède d'abord par la foi, mais on continue, on marche, on avance par la foi. C'est le canal et l'accès à la transformation complète de la grâce de Dieu. Donc, c'est le premier résultat, une transformation complète. Deuxième résultat de la provision parfaite de Dieu, c'est une célébration parfaite. Là, je n'ai parlé avec les musiciens avant qu'on commence. J'ai prié ça dans le temps de prière. Ici, on voit qu'il y a une joie partagée. Hein, il dit, mangeons et réjouissons-nous. C'est toute la gang. Let's go, on se réjouit ensemble. Parce que la bonté de Dieu crée une communauté de célébration. Nous sommes une communauté de célébration. Moi, mon cœur m'a dit là-dessus aujourd'hui. Hey, wow, on est une communauté de célébration. Parce qu'on a de quoi célébrer. En fait, s'il y a des gens qui devraient célébrer puis se réjouir, c'est bien les enfants de Dieu. Parce qu'on a le plus grand sujet de se réjouir. On est une communauté de célébration autour du pardon, de la vie, de la restauration, de tout ce qui est bon et vivant. On célèbre ça, on célèbre Dieu, qui est la source de toutes ces choses. Et Dieu a pourvu, il a conçu son Église dans le but précis qu'on le célèbre. Je ne pense pas que personne doute de ça, mais je veux quand même appuyer. On parlait d'Éphésiens 1. Ça nous parle que le Dieu trinitaire, ça nous parle du Père qui nous a adoptés par Jésus-Christ selon le plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Ensuite, quand ça nous parle du Fils qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Puis à la fin de ce passage trinitaire-là, au verset 14, ça parle du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis pour célébrer sa gloire. La Trinité au complet nous a créés les enfants de Dieu, l'Église, le corps de Christ, pour le célébrer individuellement, mais aussi collectivement. C'est pour ça qu'on chante. Parce qu'on célèbre Dieu, c'est une façon d'exprimer notre célébration. On est une communauté de célébration. Et ça, mes amis, c'est plus que juste des mots dans une chanson, c'est plus que des instruments qu'on fait sur un instrument de musique, des notes, pardon, qu'on fait sur un instrument. C'est un esprit qui nous anime. C'est l'esprit de la Nouvelle Alliance. C'est la puissance motivatrice pour avancer par la foi avec Dieu ensemble. Méditez là-dessus. Quel esprit vous anime? Quel esprit vous anime en général, mais même ici à l'Église? Puis, vous avez déjà entendu ça souvent, on ne vient pas à l'Église. Oui, on reçoit et on est béni, mais savez-vous quoi? Une bonne façon de bénir les autres, c'est d'avoir cet esprit de célébration. Des fois, ah, mais j'ai rien à dire. J'ai pas... Juste d'être joyeux et d'être content en Dieu, on bénit les autres. Les gens qui se frottent à nous autres, qui s'y frottent, s'y piquent, mais là, ça pique pas. Ou en tout cas, ça pique de la bonne façon, je ne sais pas comment le dire. Mais c'est encourageant. Veillez, OK, puis ça, là, je vous cite Hébreux 10, 24. Veillez les uns les autres pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Si on comprend ça à la lumière de l'esprit, veillons sur les autres pour veiller à ce qu'on est animé du bon esprit et que ça nous excite à l'amour et aux bonnes œuvres. Et la Bible nous parle encore là, ça c'était Hébreux 10, 24, mais ça parle aussi dans le chapitre 13, verset 15, d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est toute ça l'idée d'une communauté de célébration. On vient louer le Dieu, pas parce qu'il faut, mais parce que c'est ce qui déborde de nous autres. C'est pour ça que je parle d'esprit qui nous anime. Et on doit veiller là-dessus parce qu'on doit garder cet esprit. On peut le perdre par l'amertume, on peut la tristesse, disons, là, plutôt. Par l'amertume, l'ingratitude, OK? Puis ici, ça nous parle dans le verset suivant de ne pas abandonner notre assemblée. On peut aussi délaisser cet esprit de joie, d'espérance et de foi. Et justement, tout ça, cet esprit de célébration, bien, mes amis, c'est propulsé, c'est nourri par l'espérance en Dieu. Pourquoi? Parce que l'expérience actuelle qu'on a, ce n'est pas la fin de notre histoire. Parce que la douleur ou l'incompréhension ou la solitude, le passage par lequel nous passons, ce n'est pas la fin de l'histoire. On a l'espérance que Dieu est au contrôle, que Dieu a quelque chose de mieux, que Dieu peut faire sortir la vie de cette mort qu'on expérimente. Dieu peut transformer le mal en bien. C'est ça l'espérance chrétienne, c'est l'espérance dans le Dieu de toute espérance. Ce n'est pas circonstanciel, c'est le roc de Christ et son œuvre qui est le socle sur lequel on fait reposer cette espérance. Et n'est-ce pas ce que la croix démontre au plus haut point? Le summum de la souffrance, du rejet, des ténèbres qui a fait ressortir la vie, la réconciliation, le pardon. Et c'est pour ça là-dessus aussi que je vous encourage à méditer sur une autre phrase. Je parlais d'esprit de célébration. C'est une autre affaire que je disais dernièrement. Le don de la misère, le don de la souffrance. Comment souvent on est disposé face à la souffrance et « Oh, j'en veux pas. Hey, je veux pas souffrir dans mes... » Hey, là, soyons honnêtes, là. N'avons-nous pas tous la même réaction face aux difficultés, la souffrance, les provoquer? On peut mettre plein de mots là, pour qualifier ça. C'est quoi notre première réaction? « Ah, merci Seigneur, moi je suis spirituel, puis j'aime ça, j'en veux plus, puis je veux que ça aille mal dans ma vie. » Non, il faut être honnête, il faut connaître notre identité réelle. Dieu, j'aime pas ça. J'en veux pas de la souffrance, puis je veux pas de la misère, je veux pas des problèmes. Je veux pas de problèmes dans le domaine physique, dans le domaine relationnel, dans le domaine spirituel. Je veux que tout aille bien, tout le temps, Seigneur. Ça, c'est quoi? C'est nos cœurs qui aspirent à Christ, au ciel. Mais on n'est pas encore rendu. Donc, pourquoi j'accueillerais le don de la souffrance, le don de la misère? À cause de l'espérance. Parce que je vois que Dieu, c'est le moyen par lequel, avec l'espérance, là, qui est une façon aussi de vivre sa foi, que Dieu est en train de faire de quoi? C'est juste passager. This too shall pass, Kevin. This too shall pass. Je veux dire, il y a des choses qu'on trouve ça lourd, peut-être, mais en maintenant, on va être rendu de l'autre bord. C'est ça l'espérance. C'est pas. Des fois, le monde va dire « Ah, j'espère pour le mieux, puis on tire le 25 cents, puis j'espère que je vais pogner pile parce que ça fait 25 fois que je pogne face. » Puis la face commence à être longue. Non, c'est que l'espérance biblique, c'est une attente confiante. A confident expectation, une attente confiante dans la grâce de Dieu. Dieu, tu as décidé d'envoyer ça, puis je te remercie parce que c'est un don, parce que ça me libère de moi-même, ça nourrit mon espérance, ça fait ce que juste toi es capable de faire à travers ça. C'est un don. Là, je pourrais donner plein d'exemples, là, mais juste en rafale, pensons à Moïse, qui au début pensait donc que ça allait bien son affaire, que là, oui, Dieu, je vais être ton libérateur, puis tout. Puis on sait comment ça a fini, il a tué un Égyptien, puis là, Dieu l'a envoyé pendant 40 ans. Puis après ça, il était comme plus trop disposé, puis ouais, Dieu, je suis pas sûr finalement. Puis, savez-vous quoi? C'est Dieu qui a envoyé le don de la misère. Pourquoi? Parce qu'il a appris qu'il ne pouvait rien sans Dieu. Il était au bout de Moïse, puis il était au début de Dieu. Même chose avec David, même chose avec Pierre, même chose avec ben du monde. Puis ici aussi, ce matin dans cette église, on est de la même nature qu'eux. Et donc, c'est bon. On peut recevoir avec joie et avec une pleine espérance le don de la souffrance, de la misère. Et on peut célébrer notre Dieu parce que ça fait partie de son plan parfait. Ce n'est pas le signe qu'il nous rejette. Ce n'est pas le signe qu'il nous exclut. Au contraire, c'est parce qu'on est inclus. C'est parce qu'on est ses enfants. Même quelqu'un qui n'est pas sauvé, comment souvent, ça je le vois en prison, du monde qui trouve le Seigneur en prison, c'est plate d'être en prison. Là. Ils disent, oh oui, c'est des hôtels 5 étoiles, puis tout, puis... Vous irez, là, c'est pas exactement ça. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas comme les prisons, mettons, en Corée du Nord. Je vous le concède. Mais quand même, c'est pas un endroit, mais ça vaut-tu la peine de se faire arrêter de cette vie qu'on avait en dehors pour rentrer en dedans, puis trouver Dieu? En fait, c'est une valeur éternelle. Ça vaut toute la peine. Ça m'amène au troisième point, qui est le plus court. Le troisième résultat de la provision parfaite de Dieu, c'est une résurrection concrète. Il dit ici, le Père, mon fils était mort, puis est revenu à la vie. Évidemment, ça parle du salut, ça. Ça parle de quelqu'un qui est né de nouveau, qui était mort dans ses offenses et péchés, et qui est né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et j'espère que tout le monde ici peut dire que vous êtes passé de la mort à la vie, que vous avez reçu la provision parfaite. Jésus, qui est venu une fois pour toutes, pour payer le prix des péchés. C'est déjà tout accompli. Mais est-ce que vous l'avez pris pour vous-même? Avez-vous accepté, avez-vous pris pour vous-même la provision de Dieu? Puis il n'est pas trop tard. Dieu invite encore. Dieu est encore avec les bras ouverts. Et donc, évidemment, ça c'est le sens premier, mais j'aimerais avoir ici un petit peu une implication familiale, parce qu'on parle d'une famille ici. Là, je veux parler à la famille de Dieu, les enfants de Dieu. Je pense qu'il y a une application qu'on peut faire quand ça dit passer de la mort à la vie. Je pense qu'on peut aussi appliquer ça à l'idée de la mort relationnelle qu'on peut éprouver, ressentir dans notre relation avec Dieu. Puis aussi, évidemment, qu'il va s'en ressentir dans celle avec les autres. Puis ici, je parle plus précisément d'une relation avec Dieu basée sur la performance. Comment damner? J'ai été dans cette pensée, puis il y avait une mort entre moi et Dieu. Pas que je n'étais pas un enfant de Dieu, puis que Dieu m'haïssait, puis que Dieu m'avait rejeté. Mais je ressentais le poids du « Ah! C'est bien poche! » Je pense que Dieu est comme ça, puis il n'est pas trop... Tu sais, j'étais dans cette pensée-là, puis je ressentais cette mort. Puis Dieu a fait jaillir la vie à partir de là. C'est-à-dire, Dieu n'a pas été limité par ça. Mais je veux un peu parler de ça, dans ce sens-là ici, de mort à la vie pour un enfant de Dieu. Et... dans le fond, c'est l'idée de, est-ce que mon acceptation de Dieu est basée sur ma performance ou, OK, donc, est-ce que c'est une acceptation conditionnelle? Ça paraît bien, hein? Telle voie paraît droite à un homme, mais si on dit, Dieu, je veux faire le mieux pour toi. Je veux vraiment te donner le best in the West, parce que tu le mérites. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de l'air d'être problématique dans une pensée de même? C'est que ça commence avec moi, c'est ça le problème. C'est moi qui essaie d'avoir l'accès. Alors que j'essaie d'avoir quelque chose que Dieu m'a déjà donné. Encore là, vous lirez Éphésiens 1, on est accepté dans le bien-aimé. C'est l'œuvre de Dieu, c'est ce que lui a fait. Et évidemment, tout ça, ben, on a déjà parlé, c'est la voie de la connaissance, de l'arbre de la connaissance, du bien puis du mal. Et c'est très répandu, c'est puissant comme tromperie dans les milieux chrétiens. Mais c'est pas plus puissant que le mais Dieu de Dieu. Dieu, dans sa grande miséricorde, brise la puissance de cette mort par la mort. Comme avec Jésus, il a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort par la mort. Mais Dieu nous fait passer par la mort, nous fait expérimenter ça pour faire sortir la vie de ça. Fait qu'encore là, ne rejetez pas ce sentiment de berk, de ses poches, puis de ça va-tu finir. Voyez au-delà de ça, dire Dieu est en train de faire une œuvre pour me libérer. C'est bon quand Dieu nous fait passer par là parce que c'est le chemin vers la vie. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est quoi l'essence de la vie de Dieu? C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Il y en a toute une liste, il y en a 9. Mais ça commence par l'amour. L'amour de Dieu, c'est la puissance de la vie. C'est la puissance qui supplante la mort de l'indépendance. La mort, c'est être séparé, c'est être indépendant. L'amour, c'est être réconcilié, c'est être embrassé. Ça, je dis que c'est la puissance de la vie. L'amour, c'est ça. Puis l'amour, c'est ça qu'on dit que ça part de Dieu. Parce que c'est lui qui est venu vers nous. C'est pas nous qui l'a cherché et qui est allé vers lui. C'est lui qui est venu vers nous. L'amour est de Dieu. Dieu est amour. Mais Dieu, par sa vie, il supplante la mort de l'indépendance, de l'isolement, de la honte et du rejet. Ça, c'est beau, là. On peut méditer là-dessus aussi, là. Waouh, Dieu, tu m'aimes, tu as tout brisé ça. Et c'est comme ça que je connecte à toi. Écoutez là-dessus, Jean 15, 9, Jésus qui parle. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. C'est pas plus compliqué que ça. Demeurez dans mon amour. On est aimé, demeurons, restons dans cette conscience de cet amour de Dieu, dans cette dépendance, dans cette reconnaissance envers l'amour de Dieu. Là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a remarqué, s'il y a des gens perspicaces ici, mais pendant chacun des points, j'ai amené quelque chose qui nous relie à un autre passage d'Écriture. Foi, espérance, amour. Ça vous fait penser à quelque chose? Je l'ai entendu à 1 Corinthiens 13. Je vais faire un petit lien entre notre texte dans Jean 15 et 1 Corinthiens 13. La foi, l'espérance et l'amour. Là, on va voir si on a des théologiens. Dave, t'en rappelles-tu de ça? Maxime, peut-être? Peut-être aussi, disons, Christophe. Comment on les appelle ces trois, cette paire-là, la foi, ce trio-là, foi, espérance et amour, ça a un nom théologique. C'est des vertus...
théologales.
Yes, Paul! Excuse, Paul, je t'avais oublié. Les vertus théologales. Ça, c'est un beau mot qui nous fait paraître intelligent, là. Mais il faut savoir ce que ça veut dire, sinon on n'a pas l'air trop intelligent. Je sais juste le mot, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, l'idée des vertus théologales, c'est ce qui nous rattache au Père, ce qui nous rattache à Dieu. C'est que, tu sais, il y a toutes sortes de vertus, mais ceux-là, spécialement, foi, espérance, amour, c'est ma relation avec Dieu. C'est ça l'idée des vertus théologales. Et lorsque on lit 1 Corinthiens 13 puis Luc 15, on constate que Dieu, avec sa provision parfaite, a pourvu en Jésus-Christ à ces trois vertus qui nous rattachent à Dieu. Il est l'objet de notre foi. Il est le Dieu de toute espérance. Puis justement, dans ce monde de ténèbres, il est venu amener la lumière. Il est la lumière. Puis l'amour, il nous a tant aimés. Puis il continue de nous aimer. Donc c'est ça, tout ça est là dans les deux textes. Et c'est notre relation avec le Père par le Saint-Esprit. Et Dieu, donc, on voit ainsi que dans sa bonté, ne se contente pas seulement de mettre fin au mal, comme on l'a vu au verset 16, il était tout seul, il était isolé, ça allait mal. Mais en plus, il sature nos vies de sa bonté. C'est quelque chose d'enlever le mal. Mais de rajouter, de remplacer par une source infinie de bonté, waouh, là on parle. C'est ça que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et Dieu veut que nous répondions à ça. Savez-vous qu'on est créé pour ça? Regardez le récit de la Genèse, regardez toutes les Écritures, regardez vos vies. Nous sommes faits pour être des répondeurs. Mais on n'est pas tout le temps automatique, c'est ça le problème. On a besoin d'apprendre à répondre. Très fort, on serait des répondeurs automatiques, hein? Mais on n'est pas des robots. Quelqu'un me disait ça la semaine passée. Ah, mais là, puis ça, on l'entend, c'est un classique. Comment ça qu'il y a toute cette souffrance? Pourquoi Dieu il a fait ça? Puis j'ai dit, attends un peu, là, tu prends le mauvais langage, parce que le mal, c'est la faute de nous puis du diable. Dieu n'a fait que ramener le bien puis la vie là où il y avait de la mort. Si tu as un reproche à faire, ça ne doit pas tomber aux pieds de Dieu. Oui, OK, Dieu, il a permis des choses, mais il transforme le mal en bien. Puis bon, il y a une certaine part mystérieuse là-dedans parce que, je veux dire, Dieu aurait pu nous faire qu'on est juste dans le bien. Puis ça, mais il a voulu nous donner, justement, le choix, le libre arbitre. Il nous a fait pour répondre à lui. Ça a commencé le même dans le jardin. J'ai deux arbres. Vous avez choisi, vous devez répondre à ce que je vous ai dit. Puis regardez toute l'histoire de la rédemption, l'histoire de nos vies, c'est ça. Et donc, ce matin, puis savez-vous quoi? Ce qu'on appelle en ce moment, là, le bout de mon message rendu, c'est quoi? Puis là, je vais le dire, ils ne sont pas là, ils ne vont pas rire parce qu'ils ricanent quand ils sont là. C'est l'appel de Dieu. Parce que ça va à quoi qu'ils pensent les Thésiens quand ils disent ça? Ils pensent à Dieu qu'une pile. Puis là, quand je dis, je lance l'appel de Dieu, ils voient Dieu qui lance une pile. Ils sont enfantins, hein? On peut rire d'eux autres, ils ne sont pas là. Hey, j'espère qu'ils n'écouteront pas le message. Fait que je lance l'appel de Dieu. Non, mais là, je l'ai tout dit au complet. Mais vraiment, l'idée, c'est la réponse de la foi. Ce qu'on a entendu veut faire son chemin jusqu'à nos cœurs. Et ça, c'est par la foi. Dieu ne nous a pas dit des choses pour notre tête. Si nous ici qui n'ont pas encore la vie de Dieu, Dieu ne nous donne pas la vie par une compréhension intellectuelle. Il nous donne la vie lorsqu'on croit dans notre cœur. Si tu crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité, tu sera sauvé. Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et pour nous, les enfants de Dieu, la plus grande de ces trois des vertus théologales, c'est laquelle?
L'amour.
C'est l'amour, la charité. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui est éternelle. Au ciel, on n'aura plus besoin de foi, on n'aura plus besoin d'espérance. On va être dans la présence de Dieu, dans la félicité éternelle. Mais l'amour ne périt jamais. Donc, quand on aime... Quand on laisse Dieu comme ça porter ce fruit de l'Esprit dans nos vies, on produit du fruit éternel. C'est quelque chose qui est d'une valeur éternelle. Donc, je vous invite à répondre. Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit, puis c'est le fun. C'est pas moi l'enseignant ce matin. Je suis un sous-contractant. Le vrai enseignant, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Répondez à ce qu'il vous dit. Merci, Seigneur, que tu es personnel et tu es vivant. Seigneur, tu ne donnes pas des vérités mortes et passées date et qui étaient juste bonnes il y a 2000 ans. Puis là, ben là, on a évolué, puis on est une société à jour. En fait, c'est l'inverse. On a tellement besoin de ces vérités, spécialement en ce moment, dans un temps d'isolation et de... Il y a la mort partout. Mais Seigneur, tu es encore le Dieu vivant. Tu es encore celui qui est plein de grâce et de vérité, qui est venu nous rencontrer dans cette misère. Merci pour ça, Seigneur. Merci que tu es celui qui fait les premiers pas. Tu es celui qui aime en premier. Tu es amour. Et donc, Seigneur, je prie simplement ce matin pour la réponse de la foi. On veut répondre par la foi à ce que tu nous as dit, chacun ici particulièrement. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.